Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle semaine de l'heure du crime qui commence avec une émission spéciale en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France. L'émission a été préparée bien sûr comme chaque jour par Justine Vigneault, par Laure Broulard et c'est Alexandre Cagzan qui est à la technique de cette émission. Qui a tué le dahlia noir? Eh bien, il y a quelqu'un qui dit je sais qui a tué le dahlia noir. C'est mon invité Stéphane Bourgoin. Bonjour.
Bonjour Jacques.
Et voilà, vous avez sur la couverture du livre qui va sortir aux éditions Ring jeudi prochain poser la question qui a tué le dahlia noir, mais dans le livre qui évidemment est un travail énorme que vous avez effectué et qui a duré des années et des années, vous répondez à cette question. Dans un petit instant, on va donner des détails. Je voudrais saluer aussi la présence dans le studio de Nicolas Jacquard. Bonjour.
Bonjour Jacques.
Voilà, vous consacrez toute une page ce matin dans Le Parisien donc à cette affaire du dahlia noir à travers une interview de Stéphane Bourgoin. On peut dire, Nicolas Jacquard, que vous baigner un peu comme nous dans l'univers des affaires criminelles et des faits divers. Qu'est-ce que celle-ci a de particulier pour vous?
Celle-ci, elle a beaucoup de choses en particulier. D'abord, on peut peut-être le rappeler, c'est un nom avant tout. Ce dahlia noir, ça frappe l'imagination, ça fait une certaine mémoire comme ça du dahlia noir. Vous disiez effectivement James Ellroy, Brian De Palma, beaucoup d'auteurs s'en sont emparés. Et puis, au-delà de ce nom, de cette marque, il y a presque aussi une ambiance aujourd'hui qui nous fascine un petit peu, ce Los Angeles de tout juste après-guerre, avec voilà toutes ces images qu'on peut avoir en tête. Et puis enfin, cette personnalité du dahlia noir, donc de cette jeune femme, c'est un petit peu le mythe américain à l'envers, cette jeune fille qui est fascinée par le cinéma, qui va presque, on pourrait dire, à la capitale, à Los Angeles, pour essayer de se faire une vie dans le cinéma, et puis qui connaît ce destin bien évidemment tragique.
Voilà, oui, une image du rêve américain, comme le dit d'ailleurs, vous le dites, hein, dans votre livre, Stéphane Bourgoin, mais elle va connaître un cauchemar, quoi, un véritable cauchemar. Vous dites aussi, Stéphane Bourgoin, que vous êtes à la fois fasciné, même presque obsédé par cette histoire depuis très longtemps. Bon, vous êtes un spécialiste que tout le monde connaît des tueurs en série. Pourquoi cette obsession sur cette histoire particulière?
Ben, je me suis toujours intéressé au cold case, donc au meurtre non élucidé. Et puis, comme je suis aussi un fan de cinéma, j'ai beaucoup écrit de livres sur le cinéma, sur la série B. Et donc, le mythe d'Hollywood, c'est toujours, on voit cette jeune femme qui vient de la province avec sa valise, qui débarque à Hollywood dans un port de bus autoroutier, qui cherche à devenir célèbre. Et hélas, elle va effectivement devenir immortelle à tout jamais, sous le surnom du dahlia noir, à tel point qu'on a souvent même oublié sa véritable identité d'Elizabeth Short.
Pourquoi on l'appelait le dahlia noir d'ailleurs? Parce qu'il y a des gens qui disent parce qu'elle avait un dahlia noir dans les cheveux.
Effectivement, parce qu'elle allait dans un bar, et tous les clients et le barman l'appelaient le dahlia noir à cause de ce dahlia qu'elle se mettait dans les cheveux. Et aussi, venait de sortir deux ans auparavant un film, Le Dahlia Bleu, écrit par le célèbre Raymond Chandler, l'inventeur de Marlowe, qui passait encore dans les salles de cinéma à ce moment-là.
Alors, il faut savoir que près de 400 personnes se sont accusées de ce crime dans les semaines ou dans les mois qui ont suivi. Cette affaire a fait la une de l'actualité. On va revenir avec Stéphane Bourgoin dans un instant sur cette enquête, parce qu'il a tout repris à zéro. L'enquête de la police, le rapport d'autopsie, tout ce qui a été dit, écrit, témoigné à propos de cette affaire, il l'a passé vraiment au crible, et avec cette révélation qui est certainement le nom de celui qui est l'auteur de ce crime resté impuni depuis 67 ans. Avant d'aller plus loin, un rappel que nous allons faire ensemble des circonstances dans lesquelles l'affaire a éclaté en ce matin d'hiver 1947. Nous sommes très exactement le 15 janvier 1947 à Los Angeles. Ce matin-là, une femme affolée appelle la police. Elle explique qu'en promenant sa fille sur le trottoir d'un quartier tranquille, non loin d'Hollywood, elle vient d'apercevoir dans un terrain vague le corps d'une jeune femme sans vie. elle est tellement choquée par ce qu'elle vient de voir qu'elle prend juste le temps de donner l'adresse au coin de la 39e rue et de l'avenue Norton, et puis elle raccroche sans même donner son nom. Mais le ton de l'appel est tellement impressionnant que le policier du standard ne pense pas un instant à un canular, comme il en arrive malheureusement si souvent, et il envoie immédiatement une patrouille à l'endroit indiqué. De loin, les policiers qui arrivent sur place quelques instants plus tard aperçoivent comme un mannequin de grand magasin qu'on aurait jeté d'une voiture dans les mauvaises herbes. En s'approchant, ils découvrent le corps nu, exsangue, d'une jeune femme d'une vingtaine d'années. Le corps a été coupé en deux parties à la hauteur de la taille. Les seins et les cuisses de la victime présentent des mutilations qui indiquent qu'elle a été longuement torturée avant de mourir. Son visage étant bouilli, le meurtrier a tailladé sa bouche jusqu'aux oreilles, laissant une plaie béante qui lui fait comme un atroce sourire. La police isole, comme elle le peut, la scène du crime. Les spécialistes de l'identité judiciaire photographient le cadavre et les environs de la scène de crime. Quelques journalistes surviennent, ils font également des photos. Mais le cadavre est tellement impressionnant à voir que les journaux ne publieront que quelques scènes vues de loin et largement retouchées. Les enquêteurs se mettent immédiatement au travail. Ils interrogent tous les habitants des environs, les témoins éventuels. Mais personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. La seule certitude acquise grâce à l'examen du corps, c'est que la jeune femme a certainement été tuée ailleurs. Le corps, vidé de son sang, a été en effet lavé. De nombreux organes ont été prélevés. Et puis la dépouille martyrisée a été certainement jetée ou déposée dans le terrain vague par une grosse voiture noire dont personne n'a pu relever la marque ni la plaque d'immatriculation. Les policiers vont mettre plusieurs jours pour identifier la victime. Il s'agit d'une jeune femme de 22 ans. Elle s'appelle Elisabeth Anne Short. Ses amis, donc, comme on le disait à l'instant, la surnommaient Black Dahlia, Dahlia Noire, à cause de son abondante chevelure teinte en noir et aussi parce que, voilà, elle avait ce Dahlia dans les cheveux et qu'elle s'habillait toujours en noir pour sortir le soir. Les enquêteurs apprennent également que la jeune starlette s'était installée depuis peu à Hollywood, où il lui arrivait de se prostituer occasionnellement. Elle était née à Boston, dans le Massachusetts, en 1924. Abandonnée par son père à l'âge de 6 ans, elle avait vécu jusqu'à 17 ans chez sa mère, avec ses trois sœurs. Et puis, elle était venue s'installer en Californie, en 1943, où elle avait trouvé un emploi de vendeuse dans un magasin de l'armée américaine. L'enquête retrouvera sa trace à Santa Barbara, où elle avait été arrêtée par la police pour consommation illégale d'alcool. Et quelques mois plus tard, on la suit toujours, elle est en Floride, où elle gagne sa vie comme serveuse de bar. Et puis, elle décide de revenir tenter sa chance en Californie, à Hollywood, quelques mois avant son assassinat. De la vie de tous ceux qui l'ont connue, Elisabeth est très jolie, elle faisait plus âgée que son âge, et avec son sourire charmeur, eh ben, elle faisait tourner les têtes, en particulier celles des militaires, car elle aimait, elle recherchait même le prestige de l'uniforme. Malgré les témoignages recueillis au fil de l'enquête sur la personnalité de la jeune femme, ce crible horrible reste impuni. Les enquêteurs avaient pourtant arrêté, interrogé tous les criminels sexuels de la région pour vérifier leurs alibis. De nombreux déséquilibrés qui s'étaient accusés du crime ont été mis hors de cause. Le dernier petit ami en date de la jeune femme a été un moment soupçonné lui aussi, mais cette dernière piste sera finalement abandonnée. En 1999, un ancien inspecteur du bureau des homicides de la police criminelle de Los Angeles, s'appelle Stephen Holden, découvre à la mort de son père, George, un ancien médecin, un album photo qui contient un cliché énigmatique. Le portrait d'une jeune femme très jolie, aux cheveux noirs de jais, en qui il croit reconnaître Elizabeth Short, le Dahlia noir. Alors il mène une enquête sur son propre passé et il va révéler son histoire dans un livre où il accuse son père d'avoir été le mystérieux tueur. Mais comme toutes les hypothèses émises presque toujours d'ailleurs de bonne foi depuis le début de l'affaire, celle-ci est remise en question catégoriquement par Stéphane Bourgoin, mon invité, qui pense avoir enfin, lui, mis un nom sur l'identité du tueur, auteur d'après lui d'une impressionnante série de crimes portant la même signature criminelle, un homme qui aurait fait 21 victimes au total.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Elle s'appelait Elizabeth Short. Elle était jeune et belle, bien décidée à devenir célèbre, destinée à l'être atrocement.
La victime a été coupée en deux. Elle a été vidée de tous ses organes et de son sang. Et sa bouche a été ouverte d'une oreille à l'autre.
Ce fut le meurtre le plus célèbre de l'histoire de la Californie. Pour le public, c'était un meurtre à sensation. Rien ne reste enterré à tout jamais. Rien.
Rien ne reste enterré à tout jamais. C'était la bande-annonce du film de Brian De Palma, qui était sorti en novembre 2006, avec un casting magnifique, Josh Hartnett, Aaron Eckhart, Scarlett Johansson. Évidemment, vous avez vu ce film, Stéphane Bourgoin. Alors, maintenant, avec Nicolas Jacquard, puisque c'est une émission en partenariat avec Le Parisien, je rappelais tout à l'heure que Nicolas Jacquard avait consacré toute une page du Parisien de ce matin à la sortie de votre livre. On va vous poser, tous les deux, un certain nombre de questions. Moi, je commence, j'ouvre le feu. D'abord, pourquoi une telle médiatisation autour de cette affaire? Parce que des crimes comme ça, malheureusement, il y en a eu beaucoup.
Oui, et au sortir de la Seconde Guerre mondiale à Los Angeles, il y a toute une série de crimes sexuels absolument atroces. Celui-là, peut-être plus particulièrement, parce qu'il y a une volonté de l'assassin de choquer les personnes qui vont arriver sur la scène de crime.
Le corps coupé en deux, c'est rare.
Je publie les photos de la scène de crime, dont certaines sont totalement inédites, de l'autopsie, et on voit que le corps est déposé à moins d'un mètre du bord d'un trottoir, d'une rue très passante, où il n'y a pas de construction, il y a un terrain vague, mais c'est le chemin qu'empruntent tous les enfants pour aller à l'école et les habitants pour aller au centre commercial voisin.
Ouais, donc il y a une volonté de choquer, quoi, déjà.
Oui, parce qu'il dépose d'abord le torse supérieur face contre terre, parce qu'on le sait, on retrouve des traces d'herbe, et finalement, il décide de... dans sa volonté de choquer encore plus,
de retourner
le corps, afin qu'on voit son atroce sourire qui ressemble à celui du Joker dans les Batman, qui a été fait de son vivant.
La blessure a été faite de son vivant.
Et dès le départ, ce qui est très important, c'est que les médias, les journalistes confisquent totalement l'enquête. Ils arrivent les premiers sur les lieux. Un des journalistes, Will Fowler, explique qu'il palpe le corps, qu'il lui ferme les yeux, il piétine toute la scène de crime alors qu'il y avait probablement des traces de pas, il y avait des traces de pneus puisque l'assassin a déposé le corps dans un sac de ciment.
Mais tout le monde a piétiné.
Et ce sont les journalistes, entre autres du Los Angeles Harald Examiner, qui sort une édition spéciale
le jour même. L'après-midi,
Et qui est la deuxième meilleure vente de toute l'histoire de la presse américaine. Devant même la déclaration de guerre de la Seconde Guerre mondiale, devant même Pearl Harbor.
Nicolas Jacquard.
Ce qui est encore plus surprenant, et vous l'expliquez dans votre livre, c'est que ce sont ces mêmes journalistes qui vont identifier Elizabeth Short.
Qui vont l'identifier, oui, puisque c'est la police de Los Angeles n'arrive pas avec le matériel qu'ils ont, envoyé par télétexte, les empreintes digitales au FBI, et les journalistes ont un matériel qui s'appelle Sound Photo, qui est beaucoup plus performant. Donc c'est eux aussi qui vont découvrir en premier les objets appartenant à Elizabeth Short.
Voilà, qui vont aller chez sa mère.
Qui vont aller lui annoncer la nouvelle. Sa mère pour l'interroger en premier. Qui vont aller interroger, découvrir le suspect principal, tout ça avant les policiers. Mmh. D'où cette volonté qu'auront les policiers plus tard de cacher un certain nombre de choses, dont ce fameux rapport d'autopsie.
Alors, le rapport d'autopsie, on en parlera tout à l'heure, parce que vous révélez son contenu, qui a été gardé secret pendant toutes ces années. Vous dites que, parce que les policiers voulaient se garder, évidemment, des informations qui n'avaient pas été publiées pour confondre éventuellement, ou pour vérifier éventuellement les aveux, parce qu'il y en a eu plus de 400, hein, comme vous le dites. Vous le dites, je voudrais qu'on prenne une minute, parce que qui dit médiatisation dit aussi rumeur, et encore à l'époque il n'y avait pas internet, mais il suffit d'aller sur internet, marqué Dahlia Noir, on va trouver un certain nombre d'infos, et alors info ou intox, et vous répondez à cette question. Je voudrais qu'on fasse cette liste assez rapidement avant la pause, c'est-à-dire première info d'abord, alors elle se prostituait, c'était une prostituée?
Non. Elle ne s'est pas prostituée. On a prétendu aussi qu'elle avait tourné dans des films X clandestins, qu'on appelle les stag films, qui étaient destinés à des bordels, et qu'elle aurait fait ça au Mexique.
C'est faux.
Faux également.
Elle était enceinte.
Faux. On a ce même type de rumeur aussi pour la dernière victime de Jacques Léventreur, où on prétendait qu'elle était enceinte de quelqu'un de très célèbre. Mmh. Et là, on aurait dit qu'Elisabeth Short, le Dahlia Noir, était enceinte d'un patron de journal et éventuellement d'un big boss de la mafia qui aurait fait un contrat sur sa tête. Voilà. Faux également.
Elle aurait été torturée avec des cigarettes, on lui aurait coupé un sein.
Tout ça est faux. C'est le journaliste qui est le premier sur les lieux du crime, Will Fowler, qui en 1991 publie ses mémoires. Il indique qu'on lui a coupé un lobe d'oreille, que l'assassin a tranché le sein et l'a emporté, et qu'elle a été brûlée avec des cigarettes, et qu'on lui a gravé les initiales BD pour Black Dahlia sur la cuisse. Tout ça est entièrement faux, et depuis a été repris par des auteurs qui ont écrit sur cette affaire.
Oui, et on peut même dire, pour certains qui ont déliré sur cette affaire, la réalité est terrible, mais ça, les détails sont vraiment terribles, et je renvoie tout le monde à votre livre, parce que il y avait d'autres particularités à cette scène de crime, et vous les publiez dans le livre. C'est ce qui a été, justement, on comprend pourquoi les policiers ont gardé ces informations secrètes. On fait une pause, et on se retrouve avec Nicolas Jacquard, avec Stéphane Bourgoin, et là, on va vous passez un peu à la question, tous les deux, pour savoir comment vous en êtes arrivés à dire « Je sais qui a tué le Dahlia Noir ».
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Qui a tué le Dahlia Noir, édition spéciale de l'heure du crime en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France, Nicolas Jacquard, qui publie son article sur une page complète ce matin, est avec nous pour interroger Stéphane Bourgoin. Stéphane Bourgoin, qui est l'auteur de ce livre qui reprend une enquête absolument monumentale qu'il a effectuée toutes ces dernières années. On peut dire, ça fait quoi? Ça fait des dizaines d'années.
20 ans
que vous êtes sur cette faire, et vous publiez le résultat donc de votre enquête avec cette question, qui a tué le Dahlia Noir, mais enfin avec ce sous-titre, l'énigme enfin résolue. Ça va paraître aux éditions Ring jeudi prochain, et merci encore de nous donner la primeur de tout cela. Nicolas Jacquard, vous vouliez interroger Stéphane Bourgoin.
Oui, ce qui est assez paradoxal dans ce meurtre, c'est qu'on a à la fois, on disait, la volonté de frapper, d'exposer le corps. On sait qu'il a été emmené là en plein jour, avec donc pour le meurtrier le risque de se faire prendre. Paradoxalement aussi, on a très peu d'indices qui sont laissés par le tueur. On a le sentiment de quelqu'un de très minutieux. Mais vous relevez quand même une signature criminelle, on pourrait dire.
Oui, parce que pour moi, il est évident qu'il ne s'agit pas d'un premier crime. Un premier crime, généralement, l'assassin peut avoir peur de se faire prendre et quelquefois maladroit. Là, il y a une telle sophistication au niveau du rituel. Les fantasmes sont tellement hors normes que c'est quelque chose qui a très longtemps germé dans l'esprit du tueur. Pour moi, aucun doute est possible. Il ne s'agit pas d'un premier crime. Parce que commettre des actes post-mortem, torturer comme ça pendant plusieurs jours la victime tout en la gardant vivante, ensuite laver entièrement le corps, le drainer entièrement de son sang, écrire et envoyer un paquet où il prend soin de ne pas écrire de sa propre main en découpant des lettres, puis en trempant l'enveloppe et le papier dans de l'essence pour effacer toute trace. C'est quelque chose qui est extrêmement organisé, qui est très sophistiqué. Et pour moi, aucun doute était possible. Il avait déjà tué auparavant.
Et il faut dire, puisque vous venez d'en parler très rapidement, que dans l'enquête, parce que l'enquête, évidemment, ils ont eu beaucoup de mal, puisqu'il n'y avait pas de témoin, enfin, on l'a dit. Évidemment, tous les gens qui sont suspectés finissent par avoir un alibi à être mis hors de cause par les enquêteurs. Et puis, il y a quand même un paquet qui arrive, d'ailleurs, au journal, hein, à l'examinateur. Et dans ce paquet, il y a des effets personnels d'Elizabeth Short, il y a des photos, son certificat de naissance, sa carte de sécurité sociale, et même la notice nécrologique de son fiancé mort, dont elle parlait beaucoup à ses amis, et son carnet d'adresse avec 75 prénoms et noms d'hommes qu'elle a fréquentés. Comment on explique ça ?
Ça, il est évident que c'est l'assassin.
C'est l'ancêtre vendeur, encore une fois.
Oui, c'est l'assassin qui a envoyé. Oui, oui, oui.
Et puis, par la suite. On est sûr que c'est l'assassin, là.
Oui, là, on est sûr que c'est l'assassin. Hein. Par contre, il y a deux autres courriers qui sont signés le vengeur du Dahlia Noir, où pendant un certain temps, les médias et la police pensent qu'il s'agit peut-être de l'assassin, mais il y a eu par ailleurs aussi des centaines de lettres écrites, mais aucune ne peut être authentifiée. La seule missive authentique, c'est cette lettre qui accompagne les effets,
mais
non
avec
manuscrite.
Des lettres découpées, voilà, la lettre anonyme type à laquelle on pense toujours. Alors, s'il vous plaît, Stéphane Bourgoin, vous, on a compris, pour vous, c'est pas un premier meurtre, c'est une série, c'est un tueur en série. Et vous cherchez dans le passé, vous remontez, vous qui connaissez vraiment sur le bout des doigts, j'allais dire, pratiquement tous les grands criminels américains, vous cherchez qui pourrait être le Dahlia Noir parce qu'il aurait tué dans les années passées avec un rituel sinon identique, tout au moins proche de ce qu'on a constaté avec Elizabeth Short.
Alors, mon hypothèse qu'il ne s'agissait pas d'un premier crime à cause de ce rituel très particulier de laver les corps. Oui.
Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'autres crimes où on a lavé les corps?
Non,
on a...
c'est extrêmement rare. Le sadisme en particulier de certains actes post-mortem, j'entrerai pas dans les détails parce que c'est trop horrible. Je les publie dans le livre. Tout cela, je valide cette hypothèse qu'il s'agit pas d'un premier crime auprès de trois profilers du FBI.
D'accord. Alors, vous vous intéressez, on va le dire parce que excusez-moi, j'ai un œil sur la pendule. Vous vous intéressez à quelqu'un qui a eu les honneurs de la presse, qu'on n'a jamais identifié, le boucher de Cleveland.
Oui, tout simplement parce que, je dis tout simplement, mais j'ai rassemblé de la documentation sur des dizaines de milliers de crimes non élucidés aux États-Unis. Ça m'a pris plus de 10 ans. J'ai effectué des tableaux avec le rituel particulier, la signature psychologique du tueur, le mode opératoire, pour tenter de trouver, avant 1947, un mode opératoire ou une signature similaire, où, par exemple, l'assassin aurait lavé les corps, aurait commis des lacérations génitales, faciales, des mutilations sexuelles. Et à partir de là, effectivement, je tombe notamment sur une série de 14 meurtres commis entre 1934 et 1950 à Cleveland dans l'Ohio et sur lesquels a travaillé le célèbre Elliot Ness des Incorruptibles.
Voilà, et Elliot Ness a dû admettre son échec, il n'était pas habitué aux échecs, et ce qui est extraordinaire, puisqu'on va en venir quand même à la réponse à la question qui a tué le Dahlia Noir, non seulement vous dites il y a de fortes chances pour que ce soit le boucher de Cleveland, mais en plus je vais vous donner son nom. Et ce nom, on va vous le révéler dans un instant.
L'heure du crime sur RTL.
qui a tué le Dahlia noir. Dans un instant, Stéphane Bourgoin va nous dire ce nom qui est tout à fait inconnu, évidemment, du grand public ici en France, et qui a certainement, qui a pas totalement surpris d'ailleurs quelques-uns de vos correspondants du FBI hein, dont vous parlez. Mais d'abord, il faut voir comment vous en arrivez là. Vous dites, je cherche des affaires criminelles où il y a un point commun avec ce rituel, etc. Le boucher de Cleveland, on l'appelle le boucher parce que justement, il découpe ses victimes d'une manière professionnelle, on va dire. Et Elizabeth Short, on dit, seul un chirurgien ou un boucher aurait pu couper ce corps en deux.
Ou un entrepreneur de pompes funèbres. Hein. C'est les trois professions qui sont ciblées par les enquêteurs du Los Angeles Police Department.
Ouais.
Sauf que le patron du Los Angeles Police Department, lui, part dans un certain délire et accuse une femme lesbienne d'avoir commis le crime.
Alors, ça, il y a une raison à ça que vous expliquez dans le livre. C'est-à-dire que Elizabeth Short, après l'avoir retrouvée, on sait que ses affaires étaient, la plupart de ses affaires étaient donc dans une
consigne,
merci. et on les a retrouvés. Donc on s'est dit, si c'est dans une consigne, elle était certainement hébergée par une femme qui devait lui prêter ses produits de maquillage, hein, en gros.
Oui, parce qu'elle ne sortait jamais la rumeur, sans être maquillée, extrêmement bien coiffée, alors qu'elle était quasiment sans le sou et SDF à Los Angeles.
Voilà. Alors, bon, c'est une piste qui s'est éteinte, hein, on est d'accord. Alors revenons là au fil que vous avez suivi. Le boucher de Cleveland, qu'est-ce qu'il fait à ses victimes qui fait que vous pensez à lui à cause d'Elizabeth Short ?
D'abord, les corps sont mutilés. Il y a des mutilations sexuelles. Certains des hommes, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont tués. Mmh. C'est très important parce que les enquêteurs pensent qu'il s'agit de quelqu'un de bisexuel qui a commis les meurtres de Cleveland. Et je pense que l'assassin du Dahlia noir est également bisexuel.
Voilà. Et peut-être travesti même.
Hein, travesti,
ce qui pourrait évidemment compliquer les témoignages. Hein,
parce les corps ont été retrouvés toujours soit entièrement drainés de leur sang, lavés, et aux États-Unis, sur des décennies, on n'a guère que 4 séries criminelles où les corps des victimes sont comme ça, totalement exsangues et entièrement lavés à l'eau. Il y a un tueur pédophile dans les années 1970 et 1980 aussi, qu'on appelle le babysitter, mais qui n'a rien à voir avec les crimes du Dahlia noir ou le boucher de Cleveland.
Il avait cette signature également. On sait pourquoi ?
Alors, on peut penser que c'est à la fois pour éviter de laisser toute trace, et que c'est aussi une manière pour lui de totalement chosifier, dépersonnaliser les victimes et en quelque sorte de les purifier.
Nicolas Jacquard.
Alors, on a une description assez vague de ce boucher de Cleveland. On sait que c'était quelqu'un de grand, doté d'une force herculéenne, qui chaussait du 46. Mais en même temps, c'est presque un fantôme. Personne ne l'a véritablement vu au moment de la dépose de ses cadavres. Comment vous en arrivez à lui attribuer un nom ?
Déjà, sur un des meurtres, c'est-à-dire que si on a de forts indices pour un meurtre, on en a forcément pour l'ensemble de la série. Puisqu'il n'y a aucun doute possible, ces 14 meurtres ont été commis par un même assassin. Or, en 1936, seules 4 des victimes ont été identifiées pour le boucher de Cleveland. Toutes les 4 fréquentaient, étaient des alcooliques ou fréquentaient des débits de boissons. Et il se trouve que l'homme que j'accuse d'être le meurtrier du Dahlia noir a toujours donné rendez-vous à ses connaissances, à un journaliste, dans des débits de poissons, et il a des dizaines de condamnations pour alcoolisme. Donc je pense qu'il a approché toutes les victimes du boucher de Cleveland dans des bistrots, peut-être en leur payant des tournées, etc. Or, après le meurtre de Florence Polillo, il y a un témoignage
d'une prostituée
d'une quarantaine d'années, alcoolique, qui est tuée, démembrée aussi, mutilée sexuellement. Il y a une informatrice qui indique aux policiers qu'elle connaît l'assassin, qui est un ancien boucher de très grande taille, doté d'une force herculéenne, et qui est toujours se balade avec un couteau à très grande lame, qui est l'arme du crime du boucher.
Et qui ne sera donc jamais identifié.
Qui est identifié par elle sous le nom de Jack Wilson.
D'accord. Oui. Alors, qui est identifié par elle, mais la police n'arrive pas à cette...
Alors, une partie des dossiers d'enquête ont disparu. On ne sait pas ce qu'il en est advenu. Ouais. Mais Elliot Ness, lui, suivait une autre piste. D'accord. C'était le chef de la sûreté de Cleveland. Ouais. Et pour lui, le tueur était un médecin fou qui a été interné, le docteur Francis Sweeney.
Mais restons sur Jack Wilson ou Anderson, parce qu'il utilisait beaucoup d'identités.
Il a 20 identités différentes.
Voilà. Alors, notamment, cet homme-là, pourquoi il vous intéresse particulièrement ? C'est parce que un jour, les meurtres vont s'arrêter dans la région de Cleveland et dans Pennsylvanie, à la suite d'une lettre envoyée par le tueur à la police, qui dit « Ben voilà, vous pouvez dormir tranquille, ça va s'arrêter parce que j'ai décidé d'aller au soleil de la Californie. » Et voilà. Donc
c'est une lettre qui est envoyée au chef de la police de Cleveland le 22 décembre 1938. Mmh. Et au départ, c'est vrai qu'ils ont reçu des écrits et tout. Ils y croient, mais en même temps, ils émettent peut-être des doutes. Et c'est rétrospectivement que cette lettre prend de l'importance. Et le plus célèbre des profilers du FBI, Robert Ressler, me disait dans les années 1990 que cette lettre était très probablement authentique et a été écrite par le tueur, puisque ensuite, il y a une série de meurtres qui démarrent à Los Angeles dans les années 40. Et ce Jack Wilson avait quitté Cleveland et l'Ohio pour s'installer à Los Angeles et dans sa région.
Alors, très vite, avant la pause, une question de Nicolas Jacquard, je vois bouillir là.
Je voulais juste vous demander si vous pensez qu'il y avait une forme de frustration du tueur de ne pas pouvoir revendiquer publiquement ses crimes. Est-ce que vous pensez qu'il a voulu quelque part être un petit peu connu ou donner quelques pistes comme ça pour qu'on arrive jusqu'à lui ?
Je pense que oui. Notamment, ce qui est très frappant, c'est après le meurtre du Dahlia Noir, il y a à nouveau un meurtre à Cleveland, qu'on attribue aussi au boucher de Cleveland, mais bien après, 12 ans après le dernier crime qu'il avait commis sur place, en 1950, et c'est moins d'un mois après que le plus célèbre magazine américain, Harper's Magazine, qui avait des tirages de millions d'exemplaires, ait publié un long article sur le boucher de Cleveland, et dans la foulée, un livre paraît aussi sur les meurtres de Cleveland. En 1947, Cleveland Murders.
Et vous dites, vous, il a lu...
Il a forcément lu, voilà. Et donc, il a voulu se rappeler aux bons souvenirs des habitants de Cleveland.
À suivre, donc, point de suspension, c'est passionnant, hein, mais il y a encore pas mal de choses à vous dire. On y vient dans un instant pour la dernière partie de l'émission.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
C'est la dernière partie de cette émission en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France. Nicolas Jacquard est près de moi. On interroge Stéphane Bourgoin. Vous y croyez au fait, Nicolas Jacquard, vous, à la démonstration de Stéphane Bourgoin avant de continuer à...
Je trouve qu'elle est déjà plutôt bien faite puis on a envie d'y croire. On a envie, à 70 ans de distance, de se dire qu'effectivement ce meurtrier a été confondu enfin.
Ouais, et parce que donc Jack Wilson avait été dénoncé, vous le disiez tout à l'heure, par quelqu'un qui le connaissait. Il était effectivement, c'est un apprenti boucher ou quelque chose comme ça.
Oui, il était boucher et son dernier métier en 1960, il était boucher.
Bon, mais il échappe aux enquêtes. Il est arrêté en 60, mais ça c'est pas pour les meurtres de Cleveland.
Non, il a 55 fiches à son casier judiciaire pour sodomie, parce qu'à l'époque c'était un crime aux États-Unis. Ouais. Pour déviance, pour agression.
Mais jamais pour meurtre.
Jamais pour meurtre.
Par contre, il prend contact, et vous le racontez dans votre livre, parce que c'est ce fil que vous avez suivi aussi, il prend contact avec, après une émission de télé ou de radio ?
Oui, après une émission de radio.
De radio.
Il appelle le standard par l'entremise d'une amie pour dire qu'il veut parler à ce journaliste qui est interviewé, John Gilmore.
Parce qu'il connaît le boucher de Cleveland, il donne un autre nom.
Non, qu'il connaît par cœur l'affaire du Dahlia Noir, et qu'il prétend qu'un ami à lui lui a confié avoir connu le Dahlia Noir et avoir tué le Dahlia Noir après l'avoir séquestré dans une chambre d'hôtel.
D'accord. Il donne rendez-vous donc à cet auteur,
John Gilmore, et il donne des précisions absolument ahurissante sur le mode opératoire, la découpe du corps qui s'est effectuée au-dessus d'une baignoire sur laquelle on avait mis une planche. Mmh. Or, quand on voit les photos de l'autopsie que je publie dans mon livre, on voit que le corps est cabré. Oui. Et donc, ça correspond pour ce que disent les médecins légistes, que probablement on l'a découpé comme ça sur une planche au-dessus, soit d'un grand évier ou d'une baignoire.
Et Guillemard, et vous pensez que en fait il connaît pas quelqu'un qui l'a fait et que c'est lui quoi. Il parle de lui à la troisième personne.
Il parle de lui et finalement quelques années plus tard, parce que John Gilmore est un scénariste hollywoodien, a travaillé en Europe, il revient et son ex-épouse lui dit que
Jack Wilson a cherché
à le joindre, qui a besoin d'argent et qui lui fait encore des confidences supplémentaires. Mmh. Et ces confidences, il les transmet auprès du Los Angeles Police Department, qui là décide de mener une enquête parce que, je le rappelle, le rapport d'autopsie a toujours été gardé secret. Oui. Et ce rituel absolument abominable et particulier des tortures
décrites par cet homme, donc
décrites par cet homme,
fait penser aux policiers que c'est lui, quoi.
Ah oui, ça peut être, oui. Et alors, malheureusement, au moment où on va décider de le mettre en examen, en 1982, il meurt dans l'incendie accidentel de sa chambre d'hôtel. Il avait pour habitude de beaucoup boire, de beaucoup fumer, et déjà il y avait eu quatre départs d'incendie dans sa chambre d'hôtel. Mmh. Et ce rapport du procureur de Los Angeles, je le publie pour la première fois, là aussi, dans mon ouvrage, je l'ai obtenu, et ils disent, en conclusion, que s'il était toujours resté vivant, Jack Wilson, il aurait été mis en examen pour le meurtre du Dahlia Noir. Moi, je vais encore plus loin dans mon ouvrage, puisque pour moi, il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il a commis 20 autres meurtres entre 1934 et 1950, dont les crimes du boucher de Cleveland, où là, il est pointé du doigt par un témoin auprès des enquêteurs.
Nicolas Jacquard.
On avait des techniques de police et d'investigation qui, à l'époque, étaient balbutiantes. On voit qu'elles ont progressé au fur et à mesure de l'enquête du Dahlia Noir, par exemple, avec le profilage qui est arrivé à peu près à cette époque-là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose, on aurait pu le confondre à coup sûr?
Alors, vous savez que les enquêtes sur les meurtres en série, regardez, on a élucidé en partie les meurtres de la gare de Perpignan, c'était 1995. Regardez le temps qu'il a fallu pour les disparus de Mourmelon, pour Émile Louis, pour d'autres tueurs en série. Par contre, je pense qu'avec les techniques du profilage, on aurait peut-être pu faire le lien entre les meurtres de Cleveland, le meurtre du Dahlia Noir et d'autres meurtres à Los Angeles, puisque mon hypothèse est validée par trois des principaux profilers, mais les vrais profilers, pas ceux d'esprit criminel, pour ma théorie.
Bien sûr. La toute dernière question, il nous reste vraiment 20 secondes, parce que des auditeurs nous en parlent, mais... ils disent, mais on pourrait peut-être retrouver l'ADN de cet homme-là, même s'il est mort des affaires à lui, sa famille, puis comparer. Mais non, on peut plus rien comparer parce que toutes les pièces à conviction de l'affaire du Dahlia Noir ont disparu aussi.
Il reste un certain nombre d'objets, mais à l'époque, ils ont été manipulés aussi, donc, notamment par les journalistes. Peut-être, je suis en train d'essayer de retrouver la tombe de Jack Wilson, et si je la retrouve, je vais essayer d'obtenir l'autorisation de le faire exhumer.
Alors, on va en rester là, on va mettre des points de suspension. Merci beaucoup Stéphane Bourgoin, merci Nicolas Jacquard.
Merci.
Je crois à tous ceux qui viennent de nous écouter, qui n'ont peut-être pas encore lu Le Parisien, si l'affaire vous passionne, lisez l'interview qu'a donné Stéphane Bourgoin, Nicolas Jacquard, ce matin. Et puis je rappelle le titre du livre, il paraît jeudi aux éditions Ring. Qui a tué le Dahlia Noir? L'énigme enfin résolue.